Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour l'occasion qu'il nous donne une fois de plus d'être à l'écoute de sa parole. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Si nous pouvons ouvrir vos Bibles dans Proverbe chapitre 13, le verset 22. Nous allons faire deux lectures. Proverbe 13, 22. Ensuite, nous allons lire 1 Pierre 1, 3 et 4. Proverbe 13, 22, je lis d'abord dans la version français courant. Il est écrit ceci. L'homme de bien laisse un héritage à ses descendants, mais la fortune du pécheur reviendra au juste. Dans la version du semeur, il est écrit. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, il est écrit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Le sous-thème de cet après-midi, ou de ce cinquième jour, c'est « Une famille stable laisse un héritage stable. » Une famille stable laisse un héritage stable. La question de l'héritage bien-aimé dans le Seigneur est une question très délicate. Et parce qu'elle est très délicate, alors on a tendance à ne pas en parler. Elle est devenue taboue. Très souvent, lorsqu'on veut évoquer la question de l'héritage, il y en a qui craignent, qui commencent à émettre des craintes. On se dit, mais pourquoi parler de l'héritage? Est-ce qu'on est en train de souhaiter la mort des parents? Aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à considérer ce que le Seigneur dit à propos de l'héritage et de la manière dont cela est lié à la stabilité de nos familles. Puisque nous sommes en train de parler de la stabilité de la famille comme thème général de ce séminaire. La question de l'héritage, bien qu'elle soit taboue, cette question est biblique. Elle est biblique. Nous venons de lire ce que Dieu dit à travers l'apôtre Pierre. Mais Dieu lui-même, lorsqu'il s'adresse à son peuple dans l'Ancien Testament, ceux qu'il appelle son peuple, lorsque Dieu communique avec son peuple, il ne manque pas de parler de l'héritage qu'il a en réserve pour son peuple. Dans Exode chapitre 6, le verset 8, Dieu s'adresse à son peuple au travers de Moïse, il dit, « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Dans les versions anglaises, le mot possession est traduit par héritage. Je vous le donnerai en héritage. Dieu appelle son peuple et depuis Abraham, depuis lorsque Dieu a appelé Abraham, quand Dieu appelle Abraham, il lui dit tout de suite ce qu'il attend. Je ferai de toi une grande nation. Va vers le pays que je te montrerai. Déjà au moment où Dieu appelle Abraham, il lui montre, il lui annonce qu'il a pour lui en réserve un héritage. Et dans 1 Pierre 1 que nous venons de lire, nous sommes dans le Nouveau Testament, donc dans la Nouvelle Alliance. Nous, vous et moi, fils et filles d'Abraham, par la foi, Dieu nous dit qu'il a pour nous en réserve un héritage. Mais ça, c'est un héritage qui est différent. La Bible dit que c'est un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller et qui ne peut pas se flétrir. En économie, on dirait c'est un héritage qui ne peut pas se déprécier, qui ne peut pas perdre sa valeur. Alléluia. Parce que tout ce que nous avons perd de la valeur avec le temps. Tout ce que nous pouvons posséder perd de la valeur. Si vous avez une voiture, dès le moment où vous démarrez la voiture pour la première fois,
ça commence à perdre de la valeur. Voilà. Même lorsque vous achetez, vous construisez une maison, à travers le temps, la maison se déprécie. Elle perd de sa valeur. Parce que tous les matériaux que vous avez utilisés ne sont pas éternels. Oui. Ils perdent de la valeur. C'est pourquoi il faut chaque fois entretenir, et même à un moment donné, après certaines années, vous pouvez être amené à casser un mur pour reconstruire à nouveau. Vous voyez? Parce que ça perd de la valeur à travers le temps. Mais l'héritage dont Dieu parle pour sa famille éternelle, dont nous sommes membres, vous et moi, l'Éternel dit, c'est un héritage incorruptible qui ne se déprécie pas. Pour ceux qui sont familiers avec la gestion, si nous devons faire la comptabilité de cet héritage, le compte d'amortissement, ce serait un compte qui, au lieu d'augmenter avec le temps, mais ça diminue avec le temps. Vous voyez? Parce que ça augmente de valeur. C'est un héritage qui augmente de la valeur avec le temps. Ça, c'est ce que Dieu a en réserve pour nous. Et Dieu lui-même ne nous a pas laissés ignorants. Vous voyez? Dieu ne nous a pas laissés ignorants sur ce qu'il prépare pour nous. Un enfant de Dieu sait dans quoi il s'est embarqué. Nous savons. C'est pourquoi Paul disait « Je sais en qui j'ai cru ». Donc, nous n'abandonnons pas le monde pour suivre Jésus alors qu'il n'y a aucun intérêt. Non, nous connaissons ce que nous poursuivons. Nous savons ce que nous avons reçu en Jésus. Et c'est justement parce que ce que nous avons reçu en Jésus a plus de valeur que ce qu'il y a dans le monde que nous avons renoncé au monde. Alléluia. Jésus disait que le royaume de Dieu ressemble à un homme qui est tombé sur un trésor immense. Il découvre un trésor immense. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il possède pour acquérir ce trésor. C'est ça le royaume des cieux. Nous sommes venus à Jésus-Christ, nous avons abandonné le monde parce que nous avons trouvé en Jésus-Christ ce qui a plus de valeur que ce qu'il y a dans le monde. Alléluia. Et ce qui a plus de valeur, c'est l'héritage que nous avons en Jésus. Donc, une famille chrétienne, une famille stable, on peut la voir aussi par la qualité de son héritage. Une famille stable lègue à sa progéniture un héritage. Oui. Et la stabilité de la famille peut s'évaluer aussi par ce qui reste de cette famille après le départ des parents. Voyez? C'est ça l'héritage. Ce qui reste après vous. Ce que vous léguez aux générations futures. C'est ça l'héritage. Que restera-t-il de ma famille après moi? Lorsqu'un homme et une femme commencent à se poser cette question, ils jettent les bases de l'édifice d'une famille solide et stable. Lorsque vous commencez à vous poser la question, qu'est-ce qui va rester? Plus tôt on commence à se poser cette question, plus on augmente la probabilité de bâtir une famille stable ou d'avoir une famille stable. Que restera-t-il de votre famille? Que restera-t-il de la famille que vous voulez bâtir? Proverbe 13, 22 dit, « L'homme de bien laisse un héritage, pas à ses enfants. » J'espère que nous avons lu ça ensemble. Il laisse un héritage, pas à ses enfants, aux enfants de ses enfants. Lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, « Seigneur, fais-moi grâce. » Oui. Parce que jusque-là, je réfléchissais en pensant à mes enfants. Et là, la parole de Dieu m'invite, me met au défi de penser, non pas à mes enfants, mais aux enfants de mes enfants. Donc, c'est ma responsabilité, non seulement de bâtir pour mes enfants, mais de bâtir pour leurs enfants. La tâche est beaucoup plus sérieuse, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous ressentez ça. Si vous êtes parent, vous devez ressentir ça. Je me pose la question, mais est-ce que ce que je suis en train de projeter Est-ce que c'est pour mes petits-enfants ou ce sont pour mes enfants? J'ai directement changé. J'ai commencé à changer, à réécrire tout ce que tout ce sur quoi je travaille. Oui, c'est ça la pensée de Dieu. En fait, même lorsque Dieu bénit Abraham ou lorsqu'il bénit ses serviteurs, vous allez voir que Dieu donne sa bénédiction non pas pour la personne à qui il s'adresse, mais Dieu traite avec les générations qui vont venir après. Donc ça veut dire qu'un héritage stable, c'est un héritage qui traverse les générations. Oui, ça traverse les générations. Alors posons-nous la question, est-ce que ce que nous sommes en train de bâtir, ce sur quoi nous travaillons, ça peut traverser combien de générations? Une génération? Deux? Trois? Quatre? Et ici, j'aimerais poser la question, combien d'entre nous ont quelque chose qu'ils ont reçu de leurs grands-parents? Est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez reçu de votre grand-père ou de votre grand-mère? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Quelque chose que vous avez reçu de votre grand-père. Donc, vous voyez, le Seigneur veut que nous soyons des grands-pères et des grands-mères. Vous voyez? Donc, je ne parle pas de ceux qui sont à l'Écodime aujourd'hui. Je parle des enfants de ceux qui sont à l'Écodime. Donc, quand ils seront ici et qu'on leur pose la question, qu'ils soient tous nombreux à lever la main. Parce qu'ils auront reçu quelque chose de nous. C'est ça la pensée de Dieu. Lorsque Dieu voit la famille, vous voyez, la pensée de Dieu pour la famille, c'est quelque chose de très grand, de très précieux. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Moi, j'ai ressenti ça en méditant les Écritures. Et combien ont reçu quelque chose de leur arrière-grand-père? Levez la main. Vous voyez? Personne. Or, la pensée de Dieu, c'est que nous puissions léguer un héritage aux enfants de nos enfants. C'est là que ça doit commencer. Et à leurs enfants, ainsi de suite. La bénédiction du Seigneur, la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction qui traverse les générations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a envie de demander à Dieu cet héritage? Est-ce que vous n'avez pas envie de dire, Seigneur, c'est ça que je veux léguer? Un héritage qui va traverser des générations après moi. Qui ne veut pas un tel héritage? Vous voyez? C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est ça la volonté de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que votre héritage traverse les générations, pas une génération. Qu'elle ne s'arrête pas à vos enfants. Oui. Si vous êtes en train de penser à l'héritage comme une maison, eh bien, pensez à la maison des enfants de vos enfants. Oui. Mais qu'est-ce qu'un héritage stable? Qu'est-ce qu'un héritage stable? Vous voyez, c'est une question très importante. Nous devons savoir c'est quoi un héritage stable, concrètement. Quel est cet héritage qui va passer d'une génération, qui va traverser deux générations, qui va traverser trois générations? C'est quoi cet héritage? Parce que c'est ça. La stabilité, ce n'est pas seulement par rapport à votre maison aujourd'hui. La stabilité, c'est par rapport à votre progéniture aussi. Oui. À travers les années. Nous sommes le fruit de la foi d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous réalisons ça? La Bible dit, Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dans les écrits de Paul, dans Galates, il montre comment est-ce que nous, vous et moi, aujourd'hui, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu parce que Abraham, qui a vécu plusieurs générations avant nous, nous a légué un héritage. C'est la raison pour laquelle nous croyons en Jésus. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est aussi à cause de la foi d'Abraham. Est-ce que vous pouvez compter les générations après Abraham? Alléluia! Ah oui! Plusieurs générations. après lui. Et nous sommes ici. Hein? Le fondateur de notre communauté, la CBK, si la CBK est la CBK aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait des choix. Et ces choix-là ont fait de nous tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et parfois, on se dispute même de certains avantages dans l'Église. Même ceux qui ont... ceux qui étaient à l'origine de ces avantages ne les ont même pas vus. Alléluia. Oui. On se dispute aujourd'hui dans l'Église, tout ça. Mais nous avons des pères dans la foi qui nous ont laissé un héritage et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et ils sont morts même sans nous connaître. Et beaucoup d'entre eux ne sont même pas de notre... Ils ne sont même pas Congolais. Ils ne sont pas Congolais. Mais nous sommes leurs héritiers dans la foi. Alléluia. Alléluia. Un héritage qui traverse des générations. Mais c'est quoi cet héritage? Un héritage stable, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une maison? Est-ce qu'une maison peut être qualifiée d'un héritage stable? Est-ce que ce sont des maisons? Est-ce qu'un héritage stable, c'est un compte en banque bien fourni? Est-ce que c'est ça un héritage stable? Est-ce que ça peut traverser des générations? Ça peut arriver à la troisième, quatrième, cinquième, sixième génération. Alléluia. Est-ce qu'un héritage stable, c'est une assurance vie? J'étais en train d'écouter, je suivais à la télévision une dame entrepreneur qui exprimait sa satisfaction sur ses réalisations. Elle a réussi financièrement. Et elle disait que là où elle en est aujourd'hui, elle est sûre qu'elle peut mourir. Ses enfants peuvent ne pas travailler, mais ils ne manqueront jamais un logement, ils ne manqueront jamais de quoi manger, ils ne manqueront jamais des frais de scolarité, même s'ils ne travaillaient pas. Oui. Alléluia. Et je l'ai regardée. Elle n'a même pas 60 ans. Je ne sais pas si elle a 55 ans, je doute. Mais elle a déjà assuré. Chacun de ses enfants ont ce qu'on appelle aux États-Unis une assurance vie. Oui. Donc vous êtes sécurisé financièrement pour le restant de votre vie. Est-ce que c'est ça un héritage stable, incorruptible, qui ne peut pas se déprécier, qui peut aller de génération en génération? Est-ce que c'est ça un héritage stable? Est-ce qu'un héritage stable, ce sont des diplômes dans les meilleures universités? Est-ce que c'est ça un héritage stable? Est-ce que c'est ça la garantie de la stabilité intergénérationnelle de nos familles? Voyez, c'est important de nous poser ces questions, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous passons beaucoup de temps, nous investissons beaucoup de notre énergie et de nos ressources tout au long de notre vie dans ce que nous considérons comme durable, le plus important, stable, ainsi de suite. Donc, si nous définissons mal un héritage stable, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons passer toute notre vie en train d'investir dans des choses qui disparaîtront juste après notre mort. Ça disparaît. Héritage stable. Ce que nous avons lu dans Proverbes nous dit qu'un homme sage, un homme de bien, doit laisser un héritage à ses enfants, à ses petits-enfants. Voilà. Pour définir un héritage stable, j'aimerais vous inviter à lire avec moi Psaume chapitre 127. Psaume 127, le verset 3 jusqu'au verset 5. Psaume 127, 3 à 5. Voici ce que la Bible dit à propos d'un héritage. La Bible dit, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme des flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de sa jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. » Alléluia. La Bible dit qu'un héritage, l'héritage, ce n'est pas une chose. L'héritage, c'est une personne. C'est ça l'héritage. Le véritable héritage, ce sont des fils et des filles, des personnes, pas des choses. Je bénis le Seigneur pour cette perspective parce que la sagesse du monde nous enseigne à préparer un héritage pour nos enfants. Préparer un héritage pour nos enfants. Mais ce que Dieu dit, c'est que l'héritage, ce n'est pas ce que nous préparons pour nos enfants. Dieu dit l'héritage, ce sont nos enfants. Alléluia. Si vous êtes un enfant comme moi, sachez que votre héritage, c'est vous. Il n'y a pas meilleur héritage que vous avez reçu de vos parents que vous-même. Je suis en train de décevoir certains jeunes gens ici. Parce qu'il y en a qui attendent l'héritage de papa. C'est vous l'héritage, c'est vous. C'est vous. Ah, moi je suis l'aîné, c'est moi qui dois recevoir. C'est vous l'héritage. Il n'y a pas d'autre héritage. D'après Dieu, d'après ce que Dieu voit, ce que Dieu voit, c'est que vos parents ont pour héritage vous. Voilà. Et si vous êtes parents, l'héritage que vous êtes supposé léguer à vos enfants, ce sont vos enfants. C'est eux l'héritage que vous devez léguer. N'est-ce pas ce que nous venons de lire? Oui? Voici des fils. On n'a pas dit les fils ont un héritage. Non. J'espère que chez vous, c'est la même chose. Il y a S, non? Avant on. Les fils sont un héritage de l'Éternel. La sagesse du monde nous apprend à préparer un héritage pour nos enfants. Mais la sagesse de Dieu nous apprend à préparer nos enfants. Et non pas à préparer l'héritage, mais à préparer nos enfants à devenir des personnes de valeur. Alléluia. Des personnes de valeur, des personnes qui sont comme des flèches entre la main d'un guerrier. Voyez? Des personnes qui sont dangereuses pour le camp de l'ennemi. Des personnes qui sont dangereuses pour ceux qui menacent la stabilité de nos familles. C'est ça l'héritage selon Dieu. Lorsque ma fille, mon fils deviennent des personnes dangereuses pour l'ennemi, pour ceux qui détruisent la nation congolaise, nous avons besoin de citoyens qui sont dangereux pour nos ennemis. Alléluia. Eh, j'ai dit alléluia. L'héritage de la RDC, ce n'est pas le coltan, le cuivre, le cobalt. Ce sont des citoyens qui sont dangereux pour les ennemis du Congo. Aïe. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de coltan, qui n'ont pas de cuivre, qui n'ont pas de cobalt, qui nous mettent à genoux aujourd'hui. Oui ou non? Quels sont les fils que nous avons dans ces pays? Est-ce que nous avons des fils et des filles dans ces pays qui sont un héritage? Alléluia. J'ai dit alléluia. Non, là, je vais vous forcer. Parce que vous devez dire amen, parce que mon avenir aussi en dépend. Là, en tout cas, je vais vous forcer. Parce que si nous, Église, nous ne réalisons pas ça, si nous ne comprenons pas ça, si nous ne croyons pas ça, la nation ne va pas se relever. La famille ne va pas se relever et la nation ne va pas se relever. Parce que nous avons commencé ce séminaire, nous avons dit le lundi que la stabilité de la famille est importante parce que l'avenir, la stabilité de la nation en dépend aussi. Nous avons des dirigeants. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons des dirigeants qui pensent que l'héritage, le vrai héritage, c'est l'argent. Et c'est la raison pour laquelle ils ont consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de... à accumuler l'argent. Mais si nous avions des dirigeants qui croyaient et qui avaient compris que l'héritage, le vrai héritage, ce sont les hommes et les femmes, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Je vous assure. Nous serions des citoyens différents. Et cela serait connu dans le monde entier. Vous savez, lors des manifestations internationales, c'est là qu'on sait faire la différence entre les citoyens des différents pays. Je me souviens, il y avait une Coupe du Monde, l'avant-dernière Coupe du Monde, qui avait lieu en Russie. Les journalistes n'ont pas pu s'empêcher de faire l'observation. C'était remarquable que tous les matchs des Japonais, lorsque les Japonais jouaient, le stade, à la fin du match, tout le monde, le stade était toujours laissé aussi propre qu'il était avant le match. Parce que les Japonais, après le match, quand ils ont terminé, ils ramassent tous les déchets, tous les papiers, toutes les bouteilles, tout, ils ramassent. Et même lorsque vous allez dans les vestiaires de leurs joueurs, vous trouvez les vestiaires propres. Mais ils ont fini le match. Ce n'est pas chez eux. Et ils savent qu'il y a des gens qui sont payés pour nettoyer. Non, non, ils nettoient. C'était tellement remarquable. On en a parlé dans le monde entier. Ils sont différents. Alléluia. Et ils ne sont pas majoritairement chrétiens. Hein? Non, non, non. Non. Mais à quoi ressemblent nos paroisses, nos temples, lorsque nous avons terminé le culte? Quel genre de fils et de filles sommes-nous pour Dieu? Est-ce que nous sommes pour lui un héritage? Quel genre de fils et de filles sommes-nous pour notre paroisse? Quel genre de fils et de filles sommes-nous pour nos parents? Parce que chacun de nous est fils ou fille de quelqu'un. Est-ce que ton père et ta mère peuvent dire que Abel est pour moi un héritage? Alléluia. Est-ce que ton père peut dire que tu es pour lui un héritage? Parce que la Bible dit, les fils sont un héritage. Bien-aimés, nous devons faire attention. L'héritage, ce n'est pas ce que nous préparons pour nos enfants. L'héritage, c'est nos enfants. Bon, il y en a qui m'écoutent et qui se disent, bon, mais ce que je fais pour mon enfant, c'est pour lui. Donc, en faisant quelque chose pour mon enfant, automatiquement, je suis en train de... Non, non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce que vous faites pour votre enfant n'est pas égal à ce que vous faites de vos enfants. C'est deux choses différentes. Ce que vous faites pour un enfant, c'est différent de ce que vous faites de cet enfant. Ce n'est pas la même chose. Je vais prendre un exemple. Vous ne pouvez pas acheter une voiture pour votre enfant et dire, désormais, à la maison, nous avons un chauffeur. Vous voyez? Quand vous achetez une voiture pour votre enfant, est-ce que vous ne l'avez pas fait pour votre enfant? Vous l'avez fait pour votre enfant. Mais vous n'avez pas fait de lui quelqu'un en lui achetant une voiture. Est-ce que lui, il a changé? Non. Non. Donc, vous ne pouvez pas dire, voilà, je veux que mon enfant soit un grand chauffeur. Je lui ai acheté une voiture. Maintenant, il est un grand chauffeur. Vous estimez que votre travail est terminé? Non. Vous avez échoué. D'ailleurs, si vous vous arrêtez là, vous risquez même d'avoir produit un assassin ou un meurtrier. Parce qu'il va monter dans cette voiture et la première chose, ça sera un malheur pour la famille. Parce qu'il ne sait pas conduire. Alléluia. Ma fille m'a demandé à quel âge, papa, je pourrais conduire. Alors je lui ai dit, lorsque tu seras en mesure de changer la roue de la voiture. Parce qu'elle voulait avoir une date. Oui. Pourquoi? Parce que le plus important pour moi, c'est ce qu'elle va devenir. Parce que si elle devient une personne de valeur, alors elle peut posséder tout ce qu'elle veut. Pas de problème. Je vais dormir tranquillement. Même Dieu, lorsque Dieu a créé, lorsque vous regardez la création, et j'aimerais nous poser la question, Entre l'homme et le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a créé avant? Dieu a d'abord créé l'homme. Il a d'abord créé l'homme et puis il a planté le jardin. Et il a placé l'homme dans le jardin. Oui, lisons ça. Genèse chapitre 2. Ouais, il faut lire la Bible attentivement. Hein? Genèse chapitre 2, verset 7. Est-ce que nous y sommes? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint quoi? Une âme vivante. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel planta un jardin en Éden. Voilà. Est-ce que nous ne venons pas de lire ça? Dieu a d'abord créé l'homme. Il a d'abord travaillé sur l'homme. Et puis, il a lui a donné une possession. Alléluia. Dieu a d'abord travaillé son peuple Israël dans le désert. Il a d'abord transformé le peuple dans le désert. Et ensuite, il les a fait entrer dans la terre promise, l'héritage. Alléluia. J'ai l'impression que je vais débousculer les gens ici. Oui, oui, c'est ça la pensée de Dieu. L'héritage, ce sont les fils des personnes, des hommes et des femmes. C'est ça que nous devons travailler d'abord, ça. L'homme. Le salut de ce pays commence d'abord par le travail qui doit être fait sur l'homme. Pas les routes, les... Non, l'homme. C'est lui l'héritage, le vrai. L'héritage stable, nous venons de dire, c'est d'abord une personne. Ce n'est pas une chose, c'est une personne. Deuxièmement, l'héritage stable, c'est un enfant, un homme ou une femme qui porte la semence de la vie éternelle. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'héritage qui est stable, c'est un héritage qui traverse des générations en général. C'est un héritage qui est éternel, comme nous l'avons lu dans 1 Pierre 1. Un homme, une femme qui porte la semence de la vie éternelle constitue un héritage stable. Si vous êtes né de nouveau, véritablement, vous êtes un héritage stable pour votre famille. Alléluia. Ah, vous devez le croire. Moi, je le crois pour vous. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes un héritage stable pour votre famille. Donc, même si votre père ou votre mère vous dit, mais comment est-ce que toi, tu ne trouves pas du travail? Dis, maman, sois tranquille. Tu as déjà un héritage stable. Je suis sauvé. Alléluia. Même si tu n'es pas encore marié, dis, quand est-ce que tu vas te marier? Dis, maman, sois tranquille. Je suis déjà né de nouveau. Tu as un héritage stable. Incorruptible. Alléluia. La semence de l'éternité. Pourquoi je parle de semence? Je parle de semence parce que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Dieu ne nous demande pas de sauver nos enfants. Dieu nous demande de semer dans nos enfants la semence du salut. Parce que c'est lui qui fait éclore cette semence, qui la fait croître. Alléluia. C'est nous, à nous de semer. Et comment nous semons? Nous semons par l'exemple que nous montrons à nos enfants. À quoi ressemble une personne sauvée? Voilà. En étant pour nos enfants l'exemple d'une personne régénérée, transformée par Christ. Et ensuite, nous sèmons par l'instruction. Par l'instruction. Comme nous l'avons dit il y a quelques jours, c'est notre responsabilité d'inculquer à nos enfants la parole de Dieu. Inculquer, oui. Et il y a un âge pour cela où il faut commencer, très tôt. Le psalmiste dit dans Psaume 78, versets 3 à 7, Lisons ça. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Vous voyez ? Le psalmiste est en train de s'engager à publier ou à raconter à ses enfants qui est Dieu. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Voilà. Vous voyez ? Afin qu'ils missent ou qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Autrement dit, afin qu'ils croient au vrai Dieu. Alléluia. C'est une semence, une personne, un héritage stable. C'est un enfant qui a la semence du salut. Et cette semence a été plantée par, et doit être plantée par ses parents. Et comme toute semence, cette semence a besoin d'être arrosée. Alléluia. Elle doit être arrosée. Elle doit être arrosée par la prière. Parce que le salut, c'est une affaire spirituelle. Nous instruisons nos enfants dans la voie du Seigneur et nous prions pour eux. Pas un jour, deux jours, tous les jours. Qu'ils te connaissent, qu'ils sachent que tu es Dieu, qu'ils croient en toi. J'aime bien un serviteur de Dieu, feu pasteur ou docteur Charles Stanley. Il a dit ceci, obéissez au Seigneur, par-dessus tout, obéissez. Mais laissez au Seigneur les résultats de l'obéissance. Ne vous préoccupez pas des résultats. Contentez-vous d'obéir. Les résultats lui appartiennent. Donc semez. Semez la parole de Dieu dans les enfants. Ne ratez aucune occasion. Laissez les résultats au Seigneur. Mais vous, semez et arrosez. Semez et arrosez. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. Je me rappelle de l'histoire du fils prodigue que nous connaissons. Un fils qui a appris dans la maison de son père, qui a reçu probablement une bonne éducation. Mais à un moment donné, le fils décide de partir, de se rebeller. Il dit non, moi, donne-moi mon héritage aujourd'hui, je m'en vais. Le fils est parti. Il est parti. Mais si vous lisez attentivement l'histoire, vous allez voir, la Bible dit que le père se tenait sur la route pour voir si son fils ne venait pas. Donc, le père était là, il attendait. Le fils est parti, mais le père n'avait jamais abandonné son fils. Dans son cœur, il intercédait. Il savait qu'il reviendrait. Et lorsque le fils, la situation s'est compliquée là-bas, le fils s'est souvenu. Il s'est souvenu de l'abondance, de la bonté de son père. S'il avait un père méchant, il n'allait pas revenir. S'il savait seulement, s'il avait de son père le souvenir de quelqu'un de méchant, rancunier, vengeur, il n'allait pas revenir. Il saurait que, je préfère mourir ici. Mais c'est parce qu'il savait que dans la maison de mon père, il y a même des esclaves qui sont bien traités, mieux traités que ce que je vis maintenant. Donc il savait que son père était bon, qu'il traitait bien ses serviteurs. Il dit, alors je vais rentrer. Je sais que même s'il est fâché, en tout cas s'il est très fâché, la pire punition qu'il peut me donner, c'est d'être son serviteur. Or, en étant son serviteur, je serai mieux que ce que je suis maintenant. Alors il dit, je rentre. Alléluia. Le père avait déjà donné au fils le modèle, l'exemple, le témoignage d'un homme bon. Oui, un homme bon qui craint Dieu. Il a investi dans son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, sémons dans nos enfants. Sémons une semence incorruptible. J'enseigne à l'Écodime et je me suis dit je ne vais pas terminer ce séminaire sans le dire. J'enseigne à l'Écodime et j'ai fait un constat amer. Et ça me fait mal chaque fois que j'enseigne à l'Écodime. De voir des enfants venir à l'Écodime. Ils ont un téléphone, mais ils n'ont pas de Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, une Bible coûte 9 dollars ici, à l'église. Ça coûte 9 dollars. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dollars. Le téléphone que vous avez donné à votre enfant ne coûte pas moins de 50 dollars. Comment vous voulez avoir un héritage stable alors que vous payez cher pour ce qui va périr? Vous payez cher. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un enfant d'un chrétien né de nouveau ne devrait pas avoir un téléphone avant d'avoir une Bible. Non. Non. Alléluia. Je prie le Seigneur que cela change dans notre paroisse. Alléluia. Quelqu'un a dit que le chemin de l'enfer coûte cher. Oui. Il faut payer très cher pour aller en enfer. Mais le salut est gratuit. Mais les gens veulent payer cher. Sémons la semence de l'incorruptibilité dans nos enfants. Alors nous aurons un héritage stable. Alléluia. Exposons nos enfants à la louange et à l'adoration. Oui, c'est ça la semence. Moi, ce qui m'a soutenu dans ma foi, dans les moments de crise, ce qui a fait que je retourne vers le Seigneur, parce que toutes les conditions étaient remplies pour que je sois athée. Ce qui m'a fait retourner, c'est la louange et l'adoration, par la musique. C'est la musique seulement. Ma mère achetait, à l'époque c'était des cassettes, pas les... Il n'y avait pas de MP3, MP4, il n'y en avait pas. Des cassettes, des radiocassettes. Il y avait une radiocassette à la maison et elle achetait les cassettes. C'est après que je me suis rendu compte qu'elle était intentionnelle. Elle savait ce qu'elle faisait. Oui. On avait des cassettes de tous les musiciens chrétiens connus à l'époque. Denis Ngonde, Matou Samuel, Blaise Akila, Mombaya, tout, on avait tout. Donc, si je voulais la musique, allez. Plus tard, elle a commencé à acheter les CD après, mais comme les CD étaient trop chers, bon, elle s'est épuisée. Mais le goût était déjà là. Elle avait déjà créé l'appétit. Et plus tard, c'est moi-même qui ai commencé à m'acheter des CD maintenant, ainsi de suite. Et dans mes moments de crise, ce sont les paroles de l'Évangile qui avaient dans cette musique qui m'ont fait revenir au Seigneur. Oui. Semer la semence de l'incorruptibilité. Oui. Contrôlez les médias de vos enfants. Contrôlez-les. Ne les laissez pas comme ça. Contrôlez. Verrouillez là où il faut. Regardez, allez verrouiller là où il faut verrouiller. Même les païens le font. Mon épouse m'a montré une vidéo avant-hier ou hier, où aujourd'hui, même dans certaines écoles en Europe, à la bibliothèque de l'école, à la bibliothèque de l'école, il y a la littérature illustrée sur comment se masturber. C'est expliqué. Oui. Aux jeunes adolescents, 9 ans, 8 ans, avec des images bien colorées. Et les parents payent cher pour que les enfants aillent consommer ça. Sémons la semence de l'incorruptibilité dans nos enfants. Et laissons les résultats acquis au Seigneur. Un héritage stable, enfin, c'est un enfant habile à l'ouvrage. Proverbe chapitre 22. Verset 29, Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, quelle est la conséquence? Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Voilà. Le meilleur héritage, c'est aussi l'habileté. Ce n'est pas l'ouvrage que vous voulez léguer à votre enfant. C'est sa capacité à réaliser cet ouvrage. C'est ça l'héritage. Alléluia. Sa capacité, son habileté à l'ouvrage. Comment je prépare ma progéniture? À quoi ressemble ma progéniture, la stabilité de ma famille? Ce que nous venons de dire a tellement d'applications. Nous pouvons multiplier les exemples. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là. Parce que j'aimerais que nous puissions prier un tout petit peu. La stabilité de nos familles a besoin de nous, des parents qui sont différents de cette génération. Des parents qui sont focalisés sur ce qui demeure, focalisés sur des vraies valeurs, focalisés sur ce qui va rester après tout ce qui est éphémère, tout ce qui est passager. Et ma prière, c'est que Gomaville soit composée des familles dont les enfants sont, pas ont, mais sont un héritage pour les parents, un héritage pour l'Église, un héritage pour la nation. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous voulons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes ici, vous êtes parents, vous n'avez certainement pas besoin qu'on vous dise de prier pour vos enfants. Vous connaissez mieux vos enfants que quiconque. Et si vous êtes ici, vous êtes fils ou fille de quelqu'un. Vous n'êtes pas parent. Je suis sûr que vous désirez être vous-même comme une flèche entre les mains de vos parents. Vous voulez être une personne dangereuse pour cette génération. Et nous voulons prier parce que c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Et si nous prions conformément à sa volonté, nous savons qu'il va nous exaucer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos voix et dire au Seigneur: Éternel Dieu vivant et vrai, Créateur des cieux et de la terre, toi qui as formé l'homme à ton image et la famille à ton image, à l'image de la Trinité, nous sommes devant toi ce soir. Nous sommes devant toi, le Dieu vivant, qui peut tout, qui sait tout. Nous sommes devant toi comme des fils. Je me tiens devant toi comme un fils. Ta parole dit que les fils sont un héritage pour l'Éternel, comme une flèche entre les mains d'un guerrier. C'est ce que je veux être, Seigneur, pour ma famille. La famille dans laquelle tu m'as planté, c'est toi qui m'as planté dans cette famille. Je ne l'ai pas choisi. Et tu m'as planté dans cette famille. Ta volonté, c'est que je sois une flèche contre tous les ennemis de ma famille, contre tous les traits enflammés de l'ennemi contre ma famille, les traits enflammés de l'alcoolisme, les traits enflammés de l'adultère, les traits enflammés de la corruption, les traits enflammés de la médisance, de l'amertume, de la malédiction. Tu as fait de moi une flèche pour ma famille et je veux être cette flèche pour ma famille, une flèche entre les mains du guerrier, toi le Dieu guerrier, toi le chef de l'armée de l'Éternel. Je veux être une flèche entre tes mains, je veux être une flèche, un héritage pour toi, un héritage pour ma famille, un héritage pour mon église, un héritage pour mon église, un héritage pour mon église, un héritage, une flèche contre les traits enflammés de l'ennemi contre mon église, les traits enflammés de la division, les traits enflammés de la division. Je veux être le trait enflammé
une flèche entre tes mains. Je veux être dangereux pour le camp de l'ennemi. Je veux que lorsque l'ennemi arrive à Goma ville, qu'il se sente en danger. Qu'il se sente en danger. Alléluia. 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 Père, je prie pour mes enfants. Je prie pour leurs enfants. Je prie pour les enfants de leurs enfants. Je prie pour ma progéniture. Pour ma progéniture. La première, la deuxième génération. La troisième génération. La quatrième génération. La cinquième génération. La sixième génération. La septième génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus. Je prie que ma foi traverse les générations. Que ma foi traverse les générations. Que ma consécration traverse les générations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Je prie pour ma fille. Je prie pour mon fils. Je prie pour leurs fils. Je prie pour leurs filles. Je prie pour leurs arrière-petits-fils. Pour leurs arrière-petites-filles. Je prie, Seigneur, que tu donnes à ma progéniture, que tu fasses de ma progéniture une progéniture habile à l'ouvrage, une progéniture compétente, capable, une richesse pour cette nation. Une richesse pour cette nation, une richesse pour ma famille, une richesse pour l'église d'aujourd'hui, une richesse pour l'église de demain, afin que la pauvreté ne demeure plus, la pauvreté ne demeure plus, ni dans ma famille, ni dans mon église, ni dans ma nation, au nom de Jésus. Je prie que mes enfants et leurs enfants soient des citoyens de grande valeur, capables, compétents, outillés, au nom de Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu des générations. 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 Tu es le Dieu d'alliance. Et ton alliance est transmise. Elle est passée de génération en génération. Père, je prie pour Gomaville de la génération qui vient. Gomaville de la prochaine génération. Gomaville des prochaines générations. Je prie pour la chorale des prochaines générations. Je prie pour le mine-enfant de la prochaine génération. Je prie pour l'intercession de la prochaine génération. Je prie pour l'évangélisation de la prochaine génération. Je prie pour les pasteurs de la prochaine génération. Père, fais de nous des hommes et des femmes qui sont un héritage dans ta présence. Les flèches entre tes mains. Une menace pour le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, c'est devant toi que nous nous sommes tenus et que nous nous tenons. Je prie que le feu de la prière ne s'éteigne pas dans nos familles, mais que ce feu de la prière continue dans nos familles. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.